VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord le journal. Au Congo-Brazzaville, aucun bombardement par hélicoptère signalé aujourd'hui dans la région du Poul, fief de l'ancien rebelle pasteur Tatan Tumi dans le sud du pays. Mais les populations qui fuient les zones ciblées par l'armée font état d'un déploiement impressionnant de troupes au sol. Dans les zones frontalières du Poul, comme la Bouenza, de nombreux déplacés arrivent après avoir marché sur des dizaines de kilomètres. Ils essaient de raconter ce qu'ils ont vécu dans le Poul. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Si le week-end et ce lundi, l'armée a cessé ses bombardements dans le Poul, les populations, elles, continuent à fuir les zones ciblées. Plusieurs déplacés sont accueillis à Mindouli, l'une des principales villes du Poul. Dans les régions frontalières, les sinistrés ne font qu'arriver à Bouansa et à Loutété, dont la Bouenza, puis à Brazzaville par le Pékan Filou et la Casse Barnier. Ayant perdu dans ces attaques d'hélicoptères sa mère et sa sœur, un jeune d'environ 30 ans, témoin de ce qu'il a vu à Vinza.
Ça se passe autour de 5 heures. Ce sont des bombardements des hélicoptères. Et tout le monde se sent réveillé. C'est la fuite. Chacun pour soi. Il y a eu des morts. Il y a eu vraiment des hectares de Pasteur Ntumi, des aubergines qui étaient vraiment saccagées. Des ananas qu'on a bombardés seulement comme ça. J'ai vécu les drames. Je suis prêt à témoigner. Déjà, ils ont ôté la vie de ma mère, de ma sœur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ?
Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
République centrafricaine, alors que la population perdait patience dans l'attente de nouveau gouvernement, le Premier ministre Simplice Sarandji a finalement annoncé aujourd'hui la composition du nouveau cabinet, 23 ministres, dont 4 femmes et 3 anciens candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier. Plus de détails avec Freeman Sipila.
La configuration du nouveau gouvernement centrafricain confirme la rupture annoncée par le nouvel exécutif. 23 membres, pas de ministre d'État ni de ministre délégué. 3 candidats à la présidentielle du 30 décembre dernier ont fait leur entrée. Joseph Yakété occupe le ministère de la Défense nationale. Armel Douban prend les commandes des affaires étrangères. Et Jean-Serge Bokassa prend la tête du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. 4 femmes dans l'équipe, Arlette Sombo Dibélé à l'environnement, Fernand Diengbo à la santé publique, Gisèle Panin au tourisme et à la francophonie, enfin Virginie Mbaïkwa aux affaires sociales et à la réconciliation. Plusieurs nouveaux visages, mais visiblement des technocrates peu connus de la scène politique centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, le dépouillement du vote à la présidentielle du 10 avril continue. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais certains électeurs n'ont pas pu voter pour cause d'insuffisance de bulletins de vote. Le point avec notre envoyé spécial N'Djamena Bagassi, Koura.
Hier dimanche, la mobilisation était bien au rendez-vous. De longues files d'attente étaient visibles une bonne partie de la journée. Devant la plupart des bureaux de vote, il y a 13 candidats en liste, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Ce dernier a voté vers 8 heures dans un bureau au centre de la capitale.
Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux. Nombreux. Et faire leur choix. Leur choix. Il n'y a ni pression. Tout doit se passer dans la transparence la plus totale.
Son principal opposant, Saleh Kebzago, a voté lui vers 10 heures devant son domicile dans le quartier Paris-Congo, dans le 6e arrondissement.
J'ai entièrement confiance dans le peuple, dans sa résolution de changement. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement. C'est tout cela, je pense, qui motive les Tchadiens. C'est cela qui nous renforce dans notre conviction que notre pays va enfin se libérer du joug de la terreur.
Dans le bureau de vote 1, carré 24 de N'Djamena, on a dû refuser les nomades et les déplacés par défaut de bulletins supplémentaires. Daouda Kigangari est le rapporteur du bureau.
Donc chaque fois ici, les nomades viennent, et les déplacés viennent se lamenter, tout ça. Là. On a appelé la CENI, bon, puisqu'ils vont passer nous voir, jusqu'à là, on n'a pas vu.
À Boutal Bagara, un quartier à la périphérie est de N'Djamena, les choses ont mal tourné.
Depuis 9h, on n'arrive même pas à trouver les bulletins pour voter. Depuis 9h, il n'y a même pas de bulletins.
au lieu de recevoir des bulletins de vote, c'est plutôt à un déploiement important des forces armées auquel les électeurs de Boutal Bagar ont eu droit. Dona Bankali Tchakoto est l'un de ceux qui n'ont pu voter.
Comme ils ont déjà commencé à nous menacer avec les gaz lacrymogènes et avec les armes, vous entendez les tirs maintenant là, et on ne va jamais céder. Tant qu'ils veulent ou non, on décide ensemble de mourir. Et ils n'ont qu'à nous tuer comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, je me sacrifie.
Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Africa.
Les réseaux Internet sont coupés à N'Djamena depuis hier. Les SMS ne passent pas non plus sur le réseau local. Et la capitale est sous forte présence militaire. Selon l'AFP, ces mesures d'isolement nullement expliquées par les autorités empêchent de fait les opposants de communiquer entre eux au sujet des conditions de déroulement du vote de dimanche, auquel se présentaient 13 candidats, dont le président Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, reprise du procès des auteurs du putsch de 2015. 21 accusés ont comparu ce matin devant la Cour suprême de Gitega. Le procès avait été renvoyé il y a quelques semaines pour des questions de procédure. Et seul le général Cyril Ndayirou, qui est présenté comme le cerveau du coup d'État manqué, a été entendu par la Cour. Les autres le seront demain. Plus de précisions avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Adolphe Manirakiza, substitut du procureur général de la République, a indiqué qu'une des raisons d'avoir interjeté appel est que la Cour suprême n'a pas montré une corrélation entre les manifestations et les putschistes. Accusé de tentative de putsch, de tuerie de militaires et policiers et destruction d'infrastructures publiques estimées à 18 milliards de francs burundais, l'ex-général Cyril Ndayirou, qui est un soi-disant cerveau du putsch manqué du 13 mai 2015, a demandé ce lundi matin devant la Cour suprême de Gitega au centre du Burundi d'amener à la barre l'ancien ministre de la Défense, Poncien Gachibouengue, l'actuel chef d'état-major de l'armée, Prime Niyongabo, et le général Godefroy Niyombare, ancien chef des renseignements burundais. Il a aussi demandé à la Cour de demander au chef d'état-major ce qu'il a fait pour protéger les accords de paix et de réconciliation qui sont bel et bien inscrits dans la Constitution. Cyril Ndayirou a déclaré que si le putsch avait réussi, la population serait aujourd'hui tranquille, de même que le président burundais. La Cour a indiqué qu'elle a pris bien note de toutes ces observations et qu'elle en tiendra compte lors du jugement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Élection aux Comores, le dépouillement se poursuit après un vote qui a été manqué par des incidents à Anjouan, l'une des trois îles de l'archipel. Il s'agit de départager les trois candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Michel Joseph.
Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux de vote. Quelques 300 000 Comoriens étaient appelés aux urnes dans les trois îles qui constituent l'archipel, à savoir Moéli, Anjouan et la Grande Comore. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swalihi, dit Mahamadou, fait face à l'ex-poutiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006, et à Mouigni Baraka, gouverneur de Grande Comore. D'après la Constitution, la présidence tournante revient cette fois à la Grande Comore. Le colonel Assoumani et Mahamadou ont enregistré de précieux soutiens, mais le gouverneur Mouigni Baraka, moins connu sur les deux autres îles, veut croire en ses chances. Sur l'île d'Anjouan, des partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote et ont même cassé des urnes. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
Et pour terminer, Somalie, un journaliste somalien rallié aux islamistes Chebbari, exécuté aujourd'hui à Mogadiscio, Hassan Hanafi avait été condamné à mort pour avoir organisé l'assassinat de plusieurs collègues entre 2007 et 2010. Idriss Fall.
Hassan Hanafi a été arrêté en août 2014 à Nairobi et extradé en Somalie. D'après le tribunal militaire qui l'a jugé à Mogadiscio, il avait confessé et a été reconnu coupable d'avoir organisé le meurtre d'au moins 5 journalistes somaliens. Il a été passé par les armes à l'aube à l'académie de police de la capitale. Plusieurs confrères ont assisté à son exécution. Samedi, deux Shebabs sont déjà passés devant le peloton d'exécution. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir assassiné une journaliste de la télévision nationale en fin 2015. 45 journalistes ont été assassinés dans le pays depuis 2007. Les Shebabs ciblent souvent des membres du gouvernement, des parlementaires et des journalistes. Aussi, ce lundi, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à quelques encablures de la mairie de Mogadiscio.
Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.